qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale...
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, celui du vendredi, qui s'intitule « La conversation mondiale » et qui fait dialoguer intellectuels, artistes ou écrivains sur la crise que nous sommes en train de traverser. À l'ordre du jour ce soir, que fait la crise à la créativité? Nous sommes les héritiers de représentations de la création qui font des artistes, des êtres souvent torturés par un tourment intérieur qui les pousse à tirer des crises qu'ils ont traversées, leurs œuvres à venir. À ce prix, la crise que nous sommes en train de traverser devrait nous promettre des œuvres majeures, car la proximité de la maladie et de la mort sont supposément des moteurs pour la création. Pour en discuter ce soir, nous avons sollicité la photographe franco-américaine Sabine Mirles. Bonsoir Sabine Mirles.
Bonsoir.
Dont la dernière exposition, Pietra di Luce, a été interrompue pendant le premier confinement. Et puis avec nous, elle nous a fourni d'ailleurs un texte pour la conversation mondiale, un texte qu'il faut lire sur le site de France Culture qui s'intitule « Transformer, est-ce le rôle de l'artiste, l'attente de son travail ?» Et nous en débattrons avec elle ainsi qu'avec Evelyne Grossman, professeure de littérature française contemporaine à l'Université de Paris Diderot et autrice cette année aux éditions de Minuit de « La créativité de la crise ». Bonsoir Evelyne Grossman.
Bonsoir.
Alors Sabine Mirles, dans le texte que nous avez confié et qui a été mis en forme et traduit de l'anglais en particulier par Rémi Baille qui travaille avec nous, vous nous dites que la question que nous vous posions, c'est-à-dire à savoir est-ce que la crise augmente, transforme la créativité, est une question que vous ne vous étiez pas forcément posée, mais qu'effectivement on pose souvent aux artistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
En fait, ce qui m'a frappé le plus dans la question, c'est quel est le rôle de l'art dans l'esprit des gens, en fait, parce que face à un moment d'incertitude, comme on a vécu, comme on est toujours en train de vivre, qu'il y avait autant d'appels aux artistes en disant « c'est votre heure », c'est votre moment, que ferions-nous sans l'art dans les moments comme ça, très sombres? Et ça m'a fait réfléchir aux attentes de l'artiste et de l'art, voilà, dans l'esprit de la société,
de nos concitoyens. Mais oui. Néanmoins, c'est une demande qui a beaucoup été formulée pendant le premier confinement, sous le coup de la surprise et de l'arrêt total de toutes les activités. On pourrait dire que c'est déjà de l'histoire ancienne. On y a pensé pendant ce premier confinement, mais qu'entre le déconfinement, ce reconfinement que nous connaissons aujourd'hui, mais où les gens peuvent continuer à travailler, ça n'est pas tout à fait la même vision des choses. Est-ce que vous avez l'impression que cet horizon d'attente que nous avions et qui avait été dit sous ces termes, que ferions-nous sans l'art dans des moments aussi sombres que ceux que nous connaissons, eh bien, est un peu derrière nous? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore présent dans notre présent d'aujourd'hui, Sabine Mirles? Est-ce qu'il y a encore cette attente, selon vous?
Oui, je pense qu'il y a peut-être une attente. Mais c'est sûrement sur la question de... En fait, ça m'a frappé que c'est arrivé aussi intuitivement aux gens de faire cet appel au premier confinement. Je pense qu'on est toujours en train de vivre cette période. C'est pas fini. Le premier confinement, c'est une chose, mais on est plein dedans là.
Surtout aux États-Unis où effectivement.
Ça recommence, ça reconfine.
Oui, et c'est d'autant plus important effectivement que pendant longtemps beaucoup de gens ont nié cette crise aux États-Unis et qu'elle redémarre de façon beaucoup plus intense encore aujourd'hui. Vous êtes photographe. Vous avez travaillé comment pendant ce moment que nous avons vécu, et en particulier ce premier confinement? Est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous avez été obligé de travailler différemment, Sabine Mirles?
Oui, ça, c'est sûr que ça a changé mon façon de travailler, surtout au plan matériel au départ. Ces dernières années, j'étais beaucoup dans les chambres noires, en train de travailler en bain chimique et couches de lumière, avec des agrandisseurs de différents formats, avec des pierres, mais des négatifs tout en mélangeant. Et j'avais plus d'un accès à une chambre noire d'un coup. Et pour les raisons de ventilation, d'espace, de commander tout l'équipement d'un seul coup pour que ça arrive, parce que ça prenait, on oublie déjà très vite que les livraisons, c'était pas évident pendant le premier confinement. J'ai dû juste peut-être réfléchir autrement. Et c'était plus facile pour moi de me plonger dans la recherche, de commencer à écrire, de recommencer à écrire, de travailler aussi, de travailler en sculpture, qui était une partie de mon travail qui était toujours là, mais que j'ai prêté moins de priorité ces dernières années. Je pouvais pas me déplacer pour faire les images sur un terrain non plus. Donc j'étais dans...
Interrompu.
Voilà.
Et donc avec l'obligation de transformer ce que vous vouliez faire. Evelyne Grossman, dans ce livre que vous avez publié, qui s'intitule « La créativité de la crise », publié aux éditions de Minuit, qui est un de vos livres et le dernier d'entre eux, vous l'avez publié juste 15 jours avant ce premier confinement. Et curieusement, quand nous avons réfléchi à cette question d'une conversation mondiale autour de la création, votre livre est apparu comme très utile parce que il évoque, dans le domaine littéraire qui est le vôtre, cette question de l'obsession de la crise comme étant le mode déclencheur, souvent, de la création ou de la créativité littéraire.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est même une sorte de mythe. Littéraire, ça, Roland Barthes l'a très bien montré. Nous vivons depuis notre scolarité sur ce mythe de la crise féconde. L'artiste doit forcément traverser des crises successives ou une grande crise pour pouvoir être un créateur au sens plein du terme.
Et ça, on le doit à deux critiques littéraires qui s'appelaient Castex, qui n'a rien à voir avec notre Premier ministre, Castex et Surer. C'est en tout cas ce que nous raconte Roland Barthes quand il explique justement comment ce manuel littéraire sur la création littéraire a donc transporté cette idée de la crise féconde.
Voilà, exactement, en prenant toutes sortes d'exemples canoniques qui sont racontés aux jeunes lycéens, les voyages de Stendhal ou de Gide, les crises passionnelles, les crises sentimentales, les crises spirituelles, Chateaubriand, Renan. Enfin voilà, on a toute une série d'exemples qui nous sont donnés pour illustrer ce mythe justement de caractère indispensable de traverser une crise, c'est-à-dire finalement un traumatisme, pour pouvoir accéder à ce Graal qu'est la création.
Oui, parce que la crise permet, le mot a été inventé depuis Roland Barthes, il n'existait pas du temps de Roland Barthes, permet la résilience, c'est-à-dire ressortir de ce moment de crise et donc en ressortir grandi, mettant en relation traumatisme et création, Evelyne Grossman.
Oui, voilà, exactement. Cette notion qu'on entend si souvent maintenant de résilience, qui est une notion évidemment très utile et très féconde, pour parler finalement de ce qu'ont réussi à traverser tous ceux qui ont affronté des traumatismes violents. Il n'est pas sûr que quand on parle de création, il faille utiliser ce même modèle de la résilience. Parce que finalement, on se rend compte que c'est assez soumis à un modèle assez théologique, modèle de mort, résurrection.
Traverser les enfers.
Voilà, traverser les enfers. Et c'est peut-être pas comme ça que les choses fonctionnent vraiment, même si, et c'est ce qui m'a vraiment intéressée, même si on sait bien qu'il y a toute une série de douleurs que beaucoup d'artistes ont traversées avant de parvenir à créer, ou même pendant qu'il crée. Enfin, moi, je suis partie de cette idée de la crise d'inspiration, c'est-à-dire un sentiment très, très destructeur d'impuissance, de stérilité, qui ne concerne pas que les écrivains, qui concerne tous les créateurs, qui concerne tous les penseurs, tous les philosophes, voilà, tous ceux qui essaient de sortir un peu du nouveau, et qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais.
Oui.
Cette expression « j'y arriverai jamais », c'est une expression extrêmement enfantine, mais que j'ai réentendue dans la bouche de Jacques Derrida, qui disait ça, que souvent il avait ce sentiment d'impuissance avant de commencer à écrire. « J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais.
Bon. » Oui.
Et ça, on le trouve dans énormément d'exemples, bien sûr.
Oui, Sabine Mirallès, c'est d'autant plus étonnant qu'effectivement, cette traversée des enfers, vous en avez fait le sujet en particulier de votre dernière exposition, Pietra di Luce, puisque cette exposition qui se tenait à la galerie Thierry Béguignon et qui a été interrompue par le premier confinement, porté sur la Divine Comédie de Dante, justement, c'est-à-dire votre travail qui est tout en matérialité en tant que photographe, puisque vous travaillez en particulier sur la question des carrières, des coupes stratigraphiques que l'on peut faire dans les Alpes italiennes, par exemple, du côté de la Toscane, là où est né Dante. Eh bien, c'était le cœur de votre exposition.
À la base, c'était inspiré de l'idée que, comme tous les écrivains, Dante, il a dû faire des repérages pour écrire la Divine Comédie, et que la seule entrée dans la Terre qui existait au temps de la Renaissance, au temps de Dante, à Toscane, c'était les grandes carrières de marbre dans les Alpes Apuanes. Et donc j'ai pris son texte comme inspiration d'aller explorer cette région-là, et en travaillant sur l'architecture poétique du texte, qui termine toujours chacun des canticas termine dans le mot étoile, c'est-à-dire que même au fin fond de l'enfer, on termine sur les étoiles aussi que dans le ciel ou en purgatoire. Et donc, j'ai découvert qu'il y a aussi, je sais pas si on peut dire une légende ou pas, mais il y a au moins une histoire locale qui décrivait aussi une lumière qui vivait au centre de la montagne. Et je me disais que peut-être c'était ça, mon étoile, qu'il fallait aller essayer de creuser là-dedans.
Et ce sont creuser, c'est très important pour vous, parce qu'en tant que photographe, vous travaillez sur la matière, je l'ai dit. Vous avez dit aussi que vous étiez mise à la sculpture pendant le premier confinement, remise à la sculpture. Vous travaillez sur la matière et sur la matérialité de ces carrières en particulier, et sur la superposition des couches, comme les couches stratigraphiques que l'on doit, comme cela, soit descendre à l'intérieur pour pouvoir aller au centre de la Terre, soit les créer ou les recréer vous-même, tel que vous le faites dans votre travail photographique.
Oui, pour ce projet, j'ai beaucoup travaillé avec des couches de lumière qu'on peut uniquement faire, on ne peut pas le faire numériquement, c'est quelque chose de passif peut-être, je ne sais pas, mais dans une autre façon, ce n'est pas la même chose. Avec les morceaux de marbre très fines qui sont translucides, en fait, qui permettent la lumière de traverser. Donc comme ça, on peut faire des images à partir de plusieurs strates de marbre.
Alors, il y a des traversées qui sont des traversées physiques, pourrait-on dire, comme celle de Dante descendant aux enfers, Evelyne Grossman, mais il y a des traversées qui sont des traversées temporelles, et c'est ce que vous racontez, puisque ce que vous dites dans la créativité de la crise, c'est bien cela, c'est-à-dire que il y a un avant et un après de la crise, et vous mettez d'ailleurs en exergue de votre petit livre aux éditions de Minuit, un texte de Deleuze qui dit à un moment, c'est peut-être dans ces trous que se fait le mouvement, parce qu'il dit que pendant 8 années, il n'a rien fait, il n'a rien écrit, et que ces 8 années pourraient être considérées en tant que travail intellectuel comme un moment de friche. Et en fait, non, c'est dans ces trous que se fait le mouvement qui suit, dit Deleuze, Evelyne Grossman.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est moins l'idée qu'il y a un avant et un après de la crise. Ça, je sais que c'est un peu l'idée que nous avons actuellement, que nous sommes entrés dans une crise et qu'heureusement nous allons en sortir, nous allons voir le bout du tunnel.
Tout le monde l'espère.
Voilà, voilà. Mais ce que dit Deleuze est un peu différent. Ce que dit Deleuze, bien sûr, il y a un trou de 8 ans dans sa vie qui est théoriquement un trou d'absence totale, peut-être d'inspiration, de créativité. Mais il dit lui-même qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Et que la question, c'est de savoir comment le mouvement se fait dans des trous. Se fait le mouvement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est moins un événement qui serait une crise et qui surgirait qu'un processus. C'est-à-dire, comment on fait le mouvement? Comment on perce le mur petit à petit pour cesser, comme il dit, de se cogner la tête?
C'est d'ailleurs une des questions très intéressantes et très importantes que l'on a lorsqu'il s'agit de représenter les créateurs. Prenons des représentations cinématographiques des créateurs, Evelyn Grossman. Il y a le très beau film de Margaret von Trotta sur le travail intellectuel d'Anna Arendt, par exemple, qui est magnifique parce que elle nous dit que entre le moment où on commande, je crois que c'est le New Yorker commande le travail sur Eichmann à Jérusalem à Anna Arendt, eh bien, il y a 4 ans, je crois, entre le moment où on lui commande ses textes et le moment où elle les rend, et on la voit très, de façon très longue, s'installer sur son canapé, sur sa méridienne, fumer des cigarettes à ne plus savoir qu'en faire, réfléchir toute seule, etc. C'est très difficile de rendre le travail intellectuel, comme c'est difficile, comme l'a fait Konchalovsky juste avant ce second confinement, de décrire le travail de préparatoire de Michel-Ange pour le tombeau de Jules II, où justement il se trouve dans ses Alpes à Peuane, il se trouve en train de sortir le monstre de la carrière, et où tout compte fait, on le voit ne rien faire, mais ça n'est pas ne rien faire, évidemment, que de préparer sa création.
Oui, c'est un mouvement très lent, sans doute, et insensible, et sans doute aussi invisible. Ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est quelque chose de probablement imperceptible, mais il y a tout un travail qui s'effectue, là, un travail intérieur, un travail de maturation, mais aussi sans doute, un travail de lutte, assez forte contre la perte d'inspiration, contre le fait qu'on va peut-être pas y arriver, contre l'idée qu'il faudrait progresser en ligne droite pour parvenir à un but. Toutes ces idées sont absolument infécondes, probablement, puisqu'il faut laisser agir toutes sortes d'événements apparemment contingents, mais qui vont survenir. Et finalement, on ne maîtrise rien. Ou pas grand chose.
Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'impression, Sabine Mirlès, d'avoir tenté de maîtriser quelque chose pendant ce premier confinement, par exemple, quand vous vous êtes dit je ne peux plus faire de photographie comme je faisais, je ne peux plus aller au tirage non plus comme je le faisais, je vais peut-être me mettre à la sculpture, et vous avez commencé à réfléchir, c'est ce que vous dites dans le texte que vous nous avez confié pour la conversation mondiale, aux formes d'objets apotropaïques et oraculaires. Vous pouvez nous dire de ce dont il s'agit ?
En fait, j'ai juste commencé, je pense intuitivement peut-être, à réfléchir un peu aux formes des objets qu'on a la tendance de prêter certains pouvoirs quand on est face aux incertitudes.
C'est-à-dire écarter le mauvais sort, quoi.
C'est-à-dire, en fait, ça existe en plusieurs formes parmi toutes les cultures du monde entière, et ils sont souvent soit protectrices ou prédictives.
Pour prédire l'avenir.
Voilà. Donc c'est quelque chose qui me fascine en ce moment parce que c'est souvent considéré un objet un peu superstitieux, mais en fait, pourquoi on a, depuis toujours des siècles, gardé ces objets autour de nous?
C'est toujours la question de savoir, quand on ne croit plus à quelque chose, pourquoi le garde-t-on quand même?
Oui, voilà. Et c'est sûr que c'est pas raisonnable, logique, rationnel dans ces définitions de ces termes classiques. Mais on a tous envie de ça, et ça me voilà. Donc ça fait partie de ma recherche en ce moment.
Face à l'incertitude.
Voilà.
France Culture.
A global conversation. The time of debate.
Evelyne Grossman est donc dans cette émission Sabine Mirles qui dialogue sur la question de la créativité en temps de crise. Evelyne Grossman, vous venez d'entendre ce que disait justement Sabine Mirles sur cette vision d'objets apotropaïques qui permettent d'écarter le mauvais sort ou oraculaires qui permettent de penser l'avenir. C'est aussi ce que l'on a souvent voulu voir dans certains des grands écrivains que vous citez, que ça soit Nietzsche, que ça soit Blanchot, que ça soit d'autres qui sont cités dans, ou encore plus Antonin Artaud, par exemple, qui sont tous présents dans votre livre sur la créativité de la crise.
Oui, mais je trouvais très intéressant justement ce témoignage de Sabine Mirles parce qu'elle nous fait toucher de doigt concrètement cette façon que nous pouvons avoir à notre niveau au quotidien, pas au niveau de la création artistique, mais de nous en remettre à une espèce de pensée magique. L'idée qu'il y aurait une force de création qui nous échappe et qu'il faudrait apprendre à apprivoiser,
à dompter,
à dompter, à posséder. Et ça, je trouve que ça répond assez bien à un mouvement très important qui a traversé le XXe siècle, qui a été la recherche de qui est le sujet créateur, qui crée, ou même qui en moi crée. Vous voyez, ça c'est la question que pose Beckett, que pose beaucoup de créateurs et d'écrivains. Qui est ce sujet qui en moi parle? Qui est peut-être moi ou pas moi? En tout cas, il y a une force plus grande que moi qui me fait créer. Donc c'est un peu ce que Sabine dit quand elle parle de ces pouvoirs créateurs qu'on essaie de capter.
Oui, ou effectivement, après une très grande crise comme la Première Guerre mondiale, quand s'invente à la fois le mouvement surréaliste et le mouvement Dada, par exemple, effectivement.
Voilà, oui. Et alors justement, la recherche de l'écriture automatique ou de la création automatique par les poètes ou peintres surréalistes, c'est aussi une façon de s'interroger sur qui est le sujet de la création. Est-ce qu'il y a une force créatrice qui me dépasse?
Sabine Mirles.
J'ai pas de réponse concrète. C'est juste que ça me fait penser encore à cette idée de pourquoi en fait. C'est pas pourquoi dans une façon de résister à cette idée du tout parce que ça me touche énormément. Mais cette force créateur dans l'artiste. Est-ce que c'est l'artiste ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre
qui parle à sa place,
qui parle à sa place
ou à travers son corps.
Ça, c'est sûr que ça renforce cette idée de l'artiste en tant que mystique, en tant que
presque chaman, dites-vous.
C'est pas moi qui disais, c'est Joseph Campbell qui est connu pour avoir dit ça. Je pense qu'il y a des exemples que c'est pas faux, c'est sûr, mais je me demande est-ce que c'est important que l'artiste existe
comme ça
dans l'esprit des gens. Voilà.
Evelyne Grossman, est-ce que c'est important selon vous?
C'est important parce que ça préserve cette idée d'une force créatrice, même si elle est un peu mythique. Mais surtout pour l'artiste, en tout cas ça a été un des grands mouvements du XXe siècle, c'est une façon de se sentir moins coupable de ne pas créer. C'est une façon de partager la responsabilité de la création. Vous voyez, c'est pas moi seulement qui crée ou qui n'arrive pas à créer. Il y a une force impersonnelle qui est une force de création, alors qui peut prendre toutes sortes de noms. C'est l'écriture automatique chez les surréalistes. Mmh. Mais en peinture, je donne cet exemple à un moment de Jackson Pollock, dripping. Voilà, il y a quelque chose, on jette de la peinture et ça donne des choses absolument étonnantes. Bon, après on le retravaille, bien entendu, mais il y a un matériau là qui semble à notre disposition et qui en même temps nous aide à sortir de la culpabilité de ne pas y arriver.
Mais c'est quand même terrible parce que c'est ce que vous racontez dans La créativité de la crise, Evelyne Grossman, que des écrivains très célèbres portent en eux justement cette culpabilité de ne pas y arriver, par exemple. Je vois Sabine Mirles qui a l'air de dire « Bon non, moi je porte pas de culpabilité », mais qu'il y a cette culpabilité, en tout cas chez ceux que vous citez, de ne pas y arriver ou cette peur de ne pas y arriver. Très brièvement, je redonne la parole à Sabine Mirles ensuite, Evelyne Grossman. Sabine Mirles.
Ah, pardon. Je dis pas que... Non, je me culpabilise pas, je pense, mais c'est sûr que c'est... de se poser des questions, de se, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, de se propulser.
Dans l'avenir.
S'améliorer, toujours être très exigeante, de vouloir que ça soit... Que ça évolue en fait, de pas être satisfait d'une seule façon de travailler, de produire une chose et puis de le répéter parce que ça vend bien ou un truc comme ça, ça c'est horrible. Et je pense que c'est pas une question de culpabilité, mais d'être aussi, pour moi c'est une question d'être, j'accueille aussi parfois les incertitudes, ces incertitudes. Parce que je pense que ça peut donner, en fait, une propulsion vers quelque chose de mieux.
Pourquoi vous avez écrit des cartes postales au volcan pendant votre... Des cartes postales au volcan pendant votre confinement?
J'ai commencé à remarquer que tout le monde autour de moi avait des drôles de façons de marquer chaque jour du confinement. Et je me disais, dis donc, j'ai besoin de trouver une façon, moi, à mon façon. Et je collectionne des cartes postales des volcans du monde entier depuis un moment. Et j'ai commencé à écrire au dos de chacun au volcan qui était dans la photo, c'est-à-dire sur la carte postale, en posant des questions impossibles sur le début du monde, sur la fin du monde. Parce que les volcans sont quand même un peu, ils représentent ça, là, le début des choses, la fin des choses, l'explosion inattendue, mais aussi résiliente,
ouais.
qui survit.
Parce que la vie revient sur les flancs du volcan, par exemple.
Oui, et les volcans, ils sont toujours là, ouais. ils disparaissent pas. Donc voilà, c'était une façon pour moi de marquer chaque jour.
Dans cette vision de la création que vous développez à partir de la création littéraire, Evelyne Grossman, dans votre Créativité de la crise aux éditions de Minuit, vous expliquez qu'il y a deux types d'écrivains, ceux qui pensent effectivement que la crise est importante, au moins deux types d'écrivains, en tous les cas, dites-vous. Et puis d'autres qui pensent que écrire, c'est se mettre à sa table de travail, ne pas traverser de crise, en tout cas, c'est laisser la plume couler. Et puis de toute façon, quel que soit les jours et les nuits que l'on a vécu, ben de se mettre à sa table de travail et de travailler très régulièrement, etc. Ce sont deux visions différentes, dites-vous. Et vous évoquez la question à un moment dans votre travail sur le ratage. C'est raté. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait quelque chose, quand on n'écrit pas? Est-ce que on n'écrit pas contre le ratage, dites-vous? Vous dites on écrit et on crée avec le ratage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Evelyne Grossman?
Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Samuel Beckett.
Samuel Beckett. Vous êtes sous de bons augures, allez-y.
Oui, c'est lui qui explique qu'il a eu un jour une illumination et qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête de se sentir bête, qu'on écrit avec sa bêtise. On écrit avec sa bêtise, avec son impuissance, on écrit avec son incapacité d'écrire. Autrement dit, le ratage, c'est une force annexe, c'est une sorte d'adjuvant, comme on disait autrefois. Autrement dit, le ratage, c'est une dynamique, il y a une force du ratage. Le ratage, chez Beckett, c'est par exemple ce qu'il appelle, ou il y a le titre célèbre d'un de ses textes qui s'appelle « Mal vu, mal dit ». Mm-hmm. Et Beckett explique que c'est facile de bien écrire, c'est à la portée de n'importe quel bon élève. Ce qui est difficile, c'est de mal écrire. Ce qui est difficile, c'est la maladresse, la force de la maladresse, la force de torsion qui va faire bouger les mots. C'est ça le ratage, aussi bien en peinture qu'en littérature, je crois, pour toute forme de création. C'est justement ce qui permet de sortir de ces oppositions trop simples entre le succès et l'échec, entre la dépression, je n'y arrive pas, ou l'exaltation, je suis un génie. Vous voyez ce côté bipolaire dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, mais qui est épuisant pour le sujet. Tandis que là, se laisser prendre dans cette force du ratage, se dire que le succès n'apporte rien, parce que ce n'est pas une dynamique, c'est un arrêt de la création. C'est terrible d'avoir terminé un livre, d'avoir terminé un tableau. On sait bien qu'il y a certains artistes qui ne supportent pas, qui passent leur temps à refaire un détail d'un tableau. Donc cette force du ratage chez Beckett, c'est une façon d'envisager différemment la créativité de la crise, justement. Non pas comme un échec, mais comme ce qui est une force.
Sabine Mirlès, évidemment, on n'a pas traversé une guerre, même si on l'a dit, avoir fait la guerre, ou que c'était une guerre au virus, mais on n'est pas dans le cadre de ceux qui ont vu périr des millions de morts pendant la Première Guerre mondiale, qui ont vu naître en parallèle, effectivement, le mouvement Dada et le mouvement surréaliste, qui sont directement issus des tranchées de la guerre de 14-18. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, dans votre pratique, justement, de ce que vous avez intériorisé, de ce qu'était cette crise, de cette manière dont vous vous êtes dit est-ce que elle va me permettre de traduire autrement la réalité que je produisais auparavant, ou est-ce que ça n'est pas du tout entré dans votre façon d'imaginer ce que vous étiez en train de faire?
Je pense que c'est sûr que c'est toujours en train de entrer, justement, je suis toujours en train de réfléchir, et on n'est pas du tout fini avec.
Oui, je parle comme si on était sorti de cette crise. Alors, vous avez raison, on y est encore.
Je pense que c'est, et je mentionnais ça dans ce que j'ai écrit, c'est que je pense que c'est en fait le recul. On dit en anglais, le recul est 20 sur 20.
Oui. Et c'est à partir de ces tableaux que l'on voit chez les opticiens.
Oui,
justement si on arrive à voir et à quelle distance on arrive à voir.
Mais c'est qu'en rétrospective, en fait, qu'on peut avoir une acuité visuelle parfaitement nette et claire de comprendre ce qu'on a
vécu.
Ce qu'on a vécu, de comprendre la. En fait, c'est en revenant, en fait, c'est après, c'est pas pendant qu'on peut comprendre des choses tout de suite.
Vous voulez dire que cette émission, il faudrait peut-être la faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, avec les mêmes intervenantes, parce que peut-être la donne aura changé entre-temps, parce qu'il y aura eu une édulcoration, une transformation, puisque vous parlez de transformer, interne, qui vous permettra de faire autre chose.
C'est sûr que pour moi, mon travail, je comprends pas forcément tout de suite ce que je suis en train de faire. Je pense que beaucoup d'artistes, ils travaillent sur l'instinct au départ, et après, ils ont
une réflexion.
C'est pas forcément le discours comme quelque chose aussi académique. Mais après, il y a plein de choses. Il faut être dans le mouvement, dans la présence, dans l'intuition au départ. Au moins, je peux uniquement parler pour moi-même. Et puis après, réfléchir bien et voir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se rend compte de ce qu'on a fait et ce qu'on est. Et puis se relancer dans la matière aussi et avec ses réflexions. Je pense que c'est plus tard que les choses vont devenir beaucoup plus claires. Je pense que, oui, on est tous en train de vivre quelque chose toujours. Je vois ça avec, j'ai les étudiants et ils sont tous, il y a beaucoup parmi eux qui sont en train de travailler différemment avec leurs projets. Ils sont impactés, ils sont très impressionnés par ce qui est en train de se passer. Et je suis sûre que cette nouvelle génération d'artistes, il y aura une, je dirais pas post-Covid art, mais mais c'est possible.
Vous citez toutes les deux dans votre texte pour la Conversation mondiale qu'on peut trouver sur le site de France Culture à la page de la Conversation mondiale, à Sabine Mirlès. Vous citez toutes les deux, et vous dans votre livre La créativité de la crise, Evelyne Grossman, vous citez Louise Bourgeois. C'est curieux, parce que vous ne vous connaissez pas, et vous avez toutes les deux eu l'idée de citer Louise Bourgeois, pas tout à fait pour la même chose. Vous travaillez dans votre créativité de la crise à une conclusion, et vous prenez cette phrase de Louise Bourgeois, « L'art est une garantie de santé », Evelyne Grossman.
Oui. Mais si on l'isole ainsi, on a l'impression que c'est une sorte de mantra, une sorte de, vous voyez, de phrase consolatrice.
Apotropaïque qui nous permet de détourner le mauvais sort, voilà. C'est ça.
Or, ce n'est pas cela, je crois, uniquement que veut dire Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, ce qui m'a intéressée chez elle, c'est justement tous les déséquilibres qu'elle traverse et qu'elle maintient. Moi, j'ai été tout à fait intéressée par le fait que dans le discours de Sabine, le terme « intuition » revenait beaucoup. Pas au sens où on parle bêtement d'intuition féminine, mais au sens où moi, j'y entends une forme d'incertitude. Il y a quelque chose qui m'arrive de l'extérieur. C'est une force qui me déséquilibre forcément. Je n'ai plus les mêmes certitudes et c'est avec ça que je travaille. Avec cette force d'incertitude. Et ça, c'est ce que dit Louise Bourgeois. Louise Bourgeois a constamment montré qu'il fallait traverser des déséquilibres, qu'il fallait travailler avec ces puissances d'instabilité, d'invention, de déséquilibre, d'incertitude. Moi, juste, je crois qu'il faut toujours rappeler ça. Crise, étymologiquement, vient de l'idée d'incertitude.
Crinaïne.
La crise, voilà.
Et de guérison aussi.
Alors, c'est le moment d'incertitude où on ne sait pas encore.
Et on va
si on va vers la guérison ou vers la mort. Voilà. C'est ce moment crucial où, justement, les choses sont en déséquilibre de façon extrêmement précaire. Mmh. Et ça, c'est peut-être ce qui se joue dans cette intuition dont parle Sabine. Voilà,
Sabine Mirlès.
Apprivoiser le déséquilibre.
Oui, je ne sais pas si je dirais déséquilibre, mais incertitude, c'est sûr, parce qu'il faut toujours se poser des questions pour évoluer, pour avancer. Je pense que c'est... j'aimerais bien juste peut-être souligner juste cette idée que peut-être une crise, il n'est pas forcément la grande chaos. Cet artiste qui est en pleine panique, furieux, et en fait, peut-être c'est pas ça, parce que je trouve que c'est un peu superficiel, cette idée très romantique de l'artiste qui doit souffrir terriblement pour sortir ce diamant
de la création pure.
Oui, je sais que Nietzsche il disait que c'est de chaos qui vient en étoile. Mais ça met aussi beaucoup de pression aux artistes aussi d'être dans le chaos.
Il faut d'ailleurs accepter de rater, comme le disait tout à l'heure Evelyne Grossman. Je vous remercie toutes les deux pour avoir participé à cette conversation mondiale autour de la créativité en temps de crise. Evelyne Grossman, votre livre paru donc juste avant le premier confinement aux éditions de Minuit s'intitule « La créativité de la crise ». Merci à vous et merci à vous Sabine Mirlès. On aurait pu voir effectivement votre exposition à la galerie Thierry Biguignon qui a été interrompue par le premier confinement, qui traitait de cette question des Pietra di Luce dont on a parlé avec vous. Et on attendra maintenant que tout cela se calme pour savoir quand arriveront les prochaines expositions dans lesquelles vous participerez. Merci à vous Sabine Mirlès.
Avec grand plaisir, merci.
Et on termine avec un titre de rap, Corvid, le 4P, c'est le titre de ce groupe de rap. Donc Corvid, c'est quelqu'un qui a subi lui-même la Covid et qui a créé pendant ce temps de crise. C'était le temps du débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Hugo Boursier, Fanny Richet, Imane Gilles, à la technique Jacques Hubert, à la réalisation Acer Alid.
Qu'est-ce donc ce rêve étrange, cette lumière immaculée, ce tuyau dans ma bouche, ces bruits sourds et répétés, déguisés de masques, ils s'agitent autour de moi, les anges blancs portent des gants, ne sourient plus, je ne comprends pas, quel est ce combat que je mène seul et allongé, qui est ce soldat inconnu qui n'hésite pas à me ronger, discret il se délègue de mes faiblesses et modesties, j'étouffe sous un poids plume guerrier d'une armée infinie, corps vide. Corps vide. Corps vide. Corps vide. Ce nouvel arrivant, ce jeune homme au trait tiré.
Demain à 18h10, dans le temps du débat du samedi, vous retrouverez Raphaël Bourgois pour une émission consacrée à la santé mentale de la jeunesse en temps de Covid. Dans 3 minutes, ce sont les affaires culturelles d'Arnaud Laporte avec ce soir Emmanuel Guibert. Vous écoutez France Culture sur ce Corvid, donc titre de 4P. Vous écoutez France Culture, il est 19h.